Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Pall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Si tu ne me connais pas, j'ai cofondé une startup dans la HR Tech de 0 à 1. J'ai géré tout le développement commercial jusqu'à revendre la boîte au groupe Hello Work, un des leaders du recrutement. Depuis, j'aide les entreprises B2B à performer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser l'objectif et à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Dernièrement, j'ai eu une super discussion avec Darina, Team Lead Customer Delivery chez Welcome to the Jungle. Elle est passionnée depuis toujours par les sujets qui touchent la relation client. D'ailleurs, elle a créé le podcast Amcamgram, qui est le premier podcast francophone dédié au métier de la account management. Ça fait longtemps que j'avais envie d'aborder ici le sujet de l'onboarding client et surtout de son importance pour réussir sa croissance. Alors, j'ai pas été déçue, Darina m'a partagé plein de choses. Déjà, pourquoi Welcome to the Jungle a décidé de créer un pôle dédié à l'onboarding et comment elle l'a construit de zéro. Ensuite, comment réussir à faire cohabiter deux types d'accompagnement. Un accompagnement one-to-many pour leur offre libre-service et un accompagnement personnalisé pour leurs clients à la recherche de conseils d'experts. Et enfin, on a parlé de comment construire la meilleure équipe Customer Delivery qui vise une satisfaction 100%. C'est ta dose de culture sales. Bonne écoute. Hello Darina, ça va?
Salut Laetitia, ça va et toi?
Très très bien. Écoute, ravie de te compter parmi les invités de ce podcast. C'est très cool que tu aies accepté pour qu'on puisse parler. En fait, on parle beaucoup de vente, de techniques de vente en amont, de prospection, de closing, mais on parle rarement de ce qui se passe après. Et c'est quand même ce qui se passe après qui fait la pérennité d'une boîte et la pérennité d'une équipe sales. Donc, je suis ravie qu'on parle en gros, globalement, relations clients, onboarding, etc. Pour que les gens puissent un peu plus te remettre, je vais te laisser te présenter tout simplement.
Avec plaisir. Bah, merci beaucoup Laetitia pour l'invitation et pour me présenter. Donc moi, je suis Darina Senagi, j'ai 32 ans et je travaille aujourd'hui chez Welcome to the Jungle depuis février 2020. Donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'y suis. Je suis rentrée sur un rôle d'account management sur la partie des entreprises entre 0 et 150 collaborateurs. Donc, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être les SMBs, Small and Medium Business. Et puis après, je suis passée senior account manager. Et là, j'ai pris la tête d'une nouvelle équipe qui s'est créée, je t'en parlerai juste après, qui est l'équipe Customer Delivery. Donc, en effet, la partie onboarding, comme tu disais en intro. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi créé un podcast qui s'appelle Amcamgram, qui justement est là pour mettre en lumière les métiers après le closing. Parce que comme tu dis, il existe beaucoup de ressources très intéressantes sur la partie acquisition. Mais je suis également persuadée que la partie de après, le J plus 1, une fois que la signature du contrat est faite, est très importante et a un rôle prépondérant dans la relation long terme qu'on peut avoir avec nos clients.
Ouais, carrément. D'ailleurs, en plus, on dit quelque chose, c'est beaucoup moins cher de vendre à un client que de vendre à un nouveau client. Donc, clairement, tout ce qu'on fait à partir du moment où le client a dit oui, ça va participer au fait que on va pouvoir soit lui vendre beaucoup plus de choses, soit lui vendre des produits différents. Et du coup, avoir une croissance pour une boîte, c'est quand même ce qui est recherché. Bon, en tout cas, très cool. Je t'ai rencontré notamment dans un événement qui était sur l'échec, qui s'appelait Encaisse les échecs pour encaisser l'échec. On s'est rencontrés à cet endroit-là parce que tu parlais justement du fait que tu avais essayé de rentrer dans pas mal de boîtes et que parfois ça n'avait pas forcément marché, mais tu as toujours eu le bagou de pousser les portes pour pouvoir être à l'endroit où tu veux. Du coup, aujourd'hui, tu te retrouves Team Lead Customer Delivery après avoir été Account Manager. Donc, tu as évolué. Donc, j'imagine que à cet endroit-là aussi, tu as poussé les portes pour pouvoir avoir le poste que tu voulais. OK, c'est pas commun, en fait, d'avoir une équipe spécifique sur le delivery. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Welcome to Jungle, toi, tu as pris la tête, en fait, d'une équipe spécifique sur ce sujet?
Oui, absolument. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Welcome to the Jungle, il y a eu pas mal d'itérations qui ont été faites en termes de structuration d'équipe, à savoir, est-ce qu'il est mieux d'être full stack, c'est-à-dire une personne qui fait tout le parcours client de A à Z, ou bien est-ce qu'il vaut mieux segmenter les équipes? Et sur ce sujet, je dirais qu'on a pas mal itéré chez Welcome to the Jungle. Pour te refaire un petit peu l'historique, lorsque je suis arrivée début 2020, la structure existante, elle était différente parce qu'il y avait uniquement des account executives. Ensuite, tu avais une équipe onboarding management qui s'occupaient de l'onboarding et du refresh. Je vais t'en parler juste après. Et après, tu avais les account managers qui étaient divisés en deux segments, account manager et key account manager en fonction de la taille des comptes. En fait, là, à l'époque, la philosophie, c'était de se dire, bon, bah voilà, on va vraiment segmenter pour que chaque personne soit spécialisée sur son périmètre et que les onboarding managers, en fait, eux, leur rôle, c'est d'intervenir au tout début, après la signature d'un contrat avec les AE, avec les account executives, pour s'occuper de l'onboarding. Donc, ça veut dire quoi concrètement chez Welcome to the Jungle? Un client veut avoir une présence pour faire rayonner sa marque employeur, les onboarding managers récupèrent les informations du client et créent sa page, ce qu'on appelle une vitrine, et après la publient sur le site. Et donc ça, c'est déjà la première brique, je dirais, des onboarding managers. Et la deuxième, le deuxième moment auquel ils interviennent, c'est ce qu'on appelle le refresh. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Welcome to the Jungle, chaque année, quand un client renouvelle son contrat, parce qu'on on bosse sur des contrats annuels. Chaque année, dans tous nos abonnements, les clients bénéficient d'un nouveau crédit tournage. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent mettre à jour leur vitrine avec des nouvelles photos et des nouvelles vidéos afin que quand un candidat vient sur notre site, il voit le contenu le plus à jour possible. Donc, bref, tout ça pour dire qu'en termes de parcours client, ça faisait account executive, onboarding manager, account manager et après, ça revenait ponctuellement une fois qu'il y a eu des renouvellements, tu vois, à l'onboarding manager, et c'est toujours l'account manager qui reste le point de contact. Donc ça, c'était l'organisation qu'il y a eu 2019-2020, sauf qu'il y avait plusieurs, il y avait notamment un travers à ça, c'est qu'il y avait un peu cet effet de good cop et bad cop. Tu sais, quand un petit poussin naît, bah, la première personne qu'il voit, bah, c'est sa maman et puis il reste attaché. Mmh. Et après, quand on lui dit, bon, bah, maintenant, ce ne sera plus chez telle personne, mais chez une autre. Et l'autre personne, elle va venir te voir que pour te proposer de renouveler et a fortiori d'upseller. Et donc, il y avait ce phénomène de, bah, non, moi, je veux rester avec la personne qui m'a créé ma vitrine parce que bah, c'était un bon moment et je n'ai pas envie de parler d'argent ou en tout cas de sujets un peu plus délicats.
Ouais.
Donc, il y avait ce challenge-là. Et le deuxième gros challenge qui est intervenu, je dirais qu'il est plutôt exogène, puisque en mars 2020, comme tu sais, il y a eu le confinement, il y a eu la crise sanitaire. Et en fait, au niveau du marché des ressources humaines et de la marque employeur, bah, c'était complètement gelé. Tout ouais, était incertain. Ouais. Les recruteurs avaient gelé leurs embauches. Ils ne savaient pas jusqu'à quand est-ce que ça allait durer. Du coup, ils avaient envie de mettre une pause à Welcome to the Jungle, non pas par insatisfaction, mais par tout simplement préserver la trésorerie. Et même quand on leur donnait l'argument de la marque employeur et ne pas penser qu'à la partie embauche, mais surtout à la partie image, eh bien, en fait, même la partie marketing en elle-même a été impactée pendant Covid. Donc, que ce soit de l'un ou l'autre canal, en fait, Welcome to the Jungle était pas mal en difficulté pendant le Covid. Ce qui fait qu'il n'y avait plus d'acquisition. Donc, les AE étaient pauvres en lead. Les onboarding managers, bah, du coup, n'étaient pas alimentés non plus. En revanche, je dis nous parce qu'à ce moment-là, j'étais arrivée dans l'entreprise, un mois plus tôt, les account managers, nous étions complètement débordés par des clients qui étaient un petit peu paniqués, qui voulaient mettre leur abonnement sur pause, qui ne savaient pas trop comment faire, d'autres qui voulaient carrément churner justement pour préserver leur trésorerie en attendant qu'eux.
Churner, est-ce que tu peux juste préciser?
Absolument, c'est l'attrition, c'est le fait de quitter l'abonnement, de résilier en fait tout simplement leur abonnement. Et donc, on avait, comme tu vois ici, un déséquilibre en termes de charge de travail. Et pour pouvoir rationaliser tout ça et ne pas mettre de collaborateurs sur la touche, l'entreprise a décidé en fait de fusionner, et c'est ce qui s'est passé là en 2020, de fusionner les onboarding managers et les account managers, parce que comme ça, les onboarding managers, en fait, ils sont vraiment venus à notre rescousse pour absorber les demandes des clients qu'il y a eu à ce moment-là. Et donc, ce pôle s'est complètement repensé. Il a gardé le nom uniquement de Account Management. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il y aura un point de contact unique, une seule et même personne qui sera le point de contact du client une fois qu'un client a signé chez nous.
Jusqu'au bout, donc il fait en fait à la fois la partie vente Et aussi également la partie, je dirais, onboarding, la partie…
Alors, le closing reste chez les accounts exécutifs, ouais. bien sûr, parce qu'après, le marché a repris, ouais. voire a très, très bien repris. 2021-2022, très florissant, donc ça, c'est chouette. Donc, il y a eu même la création d'une équipe SDR en amont, l'équipe accounts exécutifs qui recevait un maximum de rendez-vous. Ensuite, c'est toujours les accounts exécutifs qui closent. Mais en effet, entre 2020 et 2022, c'est bien l'account manager qui est l'unique point de contact post-closing. Donc, ça veut dire que c'est l'account manager qui s'occupe de l'onboarding, de la relation client long terme, de voilà, lui donner ses statistiques régulièrement, de répondre à ses questions. Également, bien sûr, de renouveler le contrat, puisque comme je te disais, c'est des abonnements de 12 mois, donc de manière anticipée. Au bout de 8 mois, par exemple, on va commencer à enclencher les discussions à ce sujet, faire de l'upsell, retenir le churn. Et une fois donc que le client a renouvelé, eh bien c'est aussi dans les mains de l'account manager de s'occuper de son refresh. C'est sa mise à jour des contenus photo-vidéo. Donc en fait, tout reste dans les mains de l'account manager. Ça, c'est entre 2020 et 2022. Et comme tu vois, là, l'idée, c'est de mettre le client au centre en se disant, bah, on va lui donner un seul et même interlocuteur. Et comme ça, au moins, il a son point de repère unique et c'est beaucoup plus facile pour lui. Donc là, on va dire que on se place en 2021-2022, le marché est hyper florissant en termes de recrutement, bah, c'est la guerre des talents, il y a plus de recruteurs que de candidats, donc bref, c'est vraiment, vraiment la bonne période. Les entreprises cherchent à recruter, à se démarquer, et nous, en fait, l'équipe account manager, on essaye vraiment d'absorber et de mieux faire notre travail pour satisfaire le client et faire en sorte qu'on ait des relations de plus en plus long terme. Et du coup, on va se segmenter pendant cette période-là pour rationaliser la manière dont on s'occupe de nos clients. Donc, tu vois, on a divisé en 4 catégories nos clients, les seeds de 0 à 15 collaborateurs, les growth entre 15 et 150 collaborateurs, les mid-market jusqu'à 1000, et les enterprise, plus de 1000 collaborateurs dans une entreprise. Donc ça a été, je dirais, le premier palier en termes de structuration pour pouvoir être plus efficace et de s'adresser toujours à, on va dire, des personas de plus en plus connus des différentes équipes.
Donc, moi, ça veut dire qu'il y avait des accounts qui géraient telle typologie de clients.
Exactement. Okay. Exactement. Donc, par exemple, tiens, si je te prends, bah, moi, le segment growth, entre 15 et 150 collaborateurs, j'ai l'habitude, en tant qu'account manager, d'onboarder des clients de cette taille-là. Et je sais que je vais avoir comme persona en face de moi, bah, peut-être la personne qui est en charge du recrutement. Peut-être la personne qui est directement fondateur, fondatrice de l'entreprise, parce qu'on est encore sur des tailles d'entreprise assez critiques, tu vois. Versus mes collègues qui sont key account manager, qui eux vont être plutôt en relation avec des personnes, entre guillemets, plus spécialisées au sein de l'entreprise, type responsable communication marque employeur, responsable, enfin talent acquisition manager, tu vois. En fait, bah, ça, bien sûr, plus l'entreprise est structurée, plus les rôles sont affinés. Moi, j'avais déjà pas mal contact avec des dirigeants. Et en fait, ça permet comme ça d'être plus efficace. Donc, je dirais, c'est de la micro-segmentation au sein de l'account management. Et en ce contexte florissant, mais aussi très ambitieux de Welcome to the Jungle en termes de croissance, eh bien, ça devient un peu compliqué de se dire, mince, les account managers, ils ont quand même des missions très diverses à gérer, sachant que les KPI des account managers, ils sont uniquement basés sur du revenu, sur du chiffre d'affaires à produire.
Ce qui est normal.
Ce qui est tout à fait normal, ouais. Mais une grosse partie de notre mission à l'époque, je dirais entre 40 et 50% de notre temps de travail, est dédié à la partie onboarding et refresh. Ouais. Versus 100% de notre salaire variable est indexé sur de la partie négociation commerciale.
Ouais.
Donc là, on voit que tout de suite, il y a peut-être des changements à opérer pour permettre au département d'être plus efficace et d'atteindre nos ambitions en termes de revenus, de mettre peut-être l'énergie des personnes qui sont à l'aise sur la négociation commerciale, bah, à fond sur l'upsell pour être un peu plus agressif, pas dans nos méthodes, mais je dirais pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a repivoté, je dirais, c'est un peu le retour vers le futur qui s'est opéré à l'été 2022, puisqu'il y a eu donc la création d'un, entre guillemets, nouveau département, mais tu vois un peu où je veux en venir, qui s'appelle Customer Delivery et qui fait uniquement la partie gestion de projet, c'est-à-dire la partie onboarding au début et refresh chaque année à lorsque les clients veulent refaire leur contenu. Et okay. L'équipe Account Manager qui, elle, se re-spécialise complètement sur les sujets de négociation commerciale.
Ok, très clair. Ça me fait penser à quelque chose. En fait, un des conseils que j'avais eu quand j'avais ma boîte, on m'avait dit à partir du moment où en fait, les account managers commencent à se transformer, c'était une image que je trouvais un peu intéressante, à se transformer comme des infirmières, c'est à ce moment-là qu'il faut splitter et créer en fait une autre équipe qui est dédiée, etc. Parce que l'account management, et comme tu l'as dit, son principal objectif, c'est d'upsell ou de faire du cross-sell et donc de ramener du chiffre d'affaires. Et là où le customer delivery, son objectif, c'est la satisfaction client, quoi. Donc,
exactement.
Donc voilà. Donc du coup, tu prends la tête de ce nouveau pôle.
Absolument, je prends la tête de ce nouveau pôle. Et encore une fois, si je fais un petit clin d'œil à encaisser l'échec pour encaisser l'échec, je peux te dire que ce rôle, je ne l'ai pas eu du premier coup.
Ah yes.
J'ai été chercher avec les dents. Voilà. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Donc je suis particulièrement contente d'avoir moi-même atteint un certain objectif personnel, si je puis dire. Entre intrapreneurial presque, parce que je crée un pôle à l'intérieur d'une entreprise, donc ça c'est vraiment chouette, avec bien sûr les enseignements qu'on a de l'époque des onboarding managers, donc ça me permet vraiment de m'appuyer sur l'expertise de mes collègues qui faisaient ça, de moi-même mon expérience, puisqu'en tant qu'account manager, en fait le métier je le connais, et là le challenge c'est de recruter toute une équipe qui va faire que cette partie-là, que de la partie onboarding et refresh, mais en étant bien conscient des enjeux qui sont avant nous et après nous. C'est-à-dire que avant nous, et on va en parler un peu après, comme on a une nouvelle offre commerciale avec des plans où il y a moins d'accompagnement, plus d'autonomie, il va falloir gérer ça. Mais donc, en tout cas, répondre à la promesse qui a été faite aux clients au niveau de la vente par les accounts exécutives et préparer la passation avec les account managers au moment de la publication de la vitrine, ou de la republication, si on parle d'un refresh, pour poursuivre dans une dynamique positive et de long terme.
Ok, très clair, très très clair. Bah, attends, je vais faire peut-être une petite parenthèse, parce que tu m'as un peu teasé quand tu dis que tu es parti le chercher avec les dents ce poste. Tu peux résumer rapidement?
Ouais, absolument. Écoute, en 2021, j'avais postulé pour un poste de team lead account management parce qu'il n'existait pas encore ce nouveau pôle. Et on était deux en shortlist et puis une de mes collègues a été plus talentueuse que moi et a eu le poste. Donc, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai voulu redoubler un peu de créativité dans le rôle. J'ai pris finalement un poste de senior account manager pour commencer à mettre un pied dans la stratégie. Et pour le coup, tu vois, sur la partie onboarding, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment les premiers instants qu'on passe avec nos clients. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir en fait le fait d'avoir un monstre à deux têtes comme ça et de savoir ce qui va arriver par la suite, ça permet au premier d'être bien anticiper en fait tous les sujets qu'il va y avoir. Donc j'ai pas mal bossé sur cette partie-là d'onboarding et de satisfaction client, et je pense que ça a été aussi un atout lorsque le pôle s'est ouvert
trop bien.
Pour ma candidature.
Trop bien, ça peut inspirer les gens qui se disent en fait comment je fais pour pouvoir aussi également évoluer en fait au sein d'une structure sales du coup c'est cool. Du coup en fait tu as pas mal décrit les raisons pour lesquelles il y a eu ce split et les raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui un pôle customer delivery. Maintenant justement j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail de se dire en fait aujourd'hui parce que moi en fait je le sépare pas en fait dans c'est peut-être une erreur mais moi je le sépare pas, je considère que ça fait toujours partie du cycle de vente. Pour moi le cycle de vente tu vois genre tu as le début où tu closes un premier client qui te connaît pas. Déjà tu es parti le chercher avec les dents, ensuite tu l'as closé, ensuite il passe du coup chez les personnes qui s'occupent de l'onboarding, donc soit c'est des account management, soit ça peut être des CSM ou des chefs de projet, on les appelle, ils ont des noms parfois très différents en fonction des boîtes. Et ensuite, après, ils retournent dans la case account management, donc à se faire upsell ou cross-sell. Donc, pour moi, on est encore, tu vois, je ne le sépare pas, tu vois, je me dis, on est encore dans la phase, en fait, bah, en cours de prestation. Et il y a pas mal de touches qui doivent être mises en place. Donc, toi, aujourd'hui, dans Welcome to Jungle, à partir du moment où un client, du coup, passe du coup chez vous, c'est quoi les différentes étapes?
Oui, complètement. Et on nous attend clairement au tournant parce que là, le client, il a signé pour une promesse, mais il l'attend. Ouais. Et surtout, c'est encore plus vrai sur Welcome to the Jungle parce que la vitrine d'une entreprise, elle est très concrète. Elle se matérialise en fait par quelque chose de très visible. Donc en fait, le client, il s'attend à quelque chose. On lui a fait des démos, lui a montré des pages de concurrents, d'entreprises qui peuvent lui ressembler et tout. Mais en fait, ce qu'il attend, c'est sa propre vitrine à lui, mais personnalisée.
Ouais.
Et avant de dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce que tu es venu, est-ce que tu es venu pour de la notoriété, du recrutement et autres, ça c'est plutôt la partie account management. Entre les deux, comme tu dis, bah, y a nous. Et nous, ouais, on est vraiment là pour délivrer. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle un nom un peu barbare qui est peu connu sur le marché, Customer Delivery, mais on est là pour délivrer la promesse qui a été faite au client.
Donc, je trouve que d'ailleurs, en fait, c'est plus intéressant d'avoir ce nom-là, Customer Delivery, que Customer Success. Parce qu'en fait, tu peux délivrer, mais il y a plein de choses aussi également qui peuvent ne pas être de ton scope, qui fait qu'il y a des résultats ou pas. Tu vois, genre, parfois, moi, j'étais dans ton domaine, dans le recrutement. Il y a des fois où j'avais justement les chefs de projet qui délivraient super bien, mais pour des raisons qui sont... l'entreprise pas forcément complètement très sexy, plein de raisons, bah, elle n'avait pas les résultats du nombre de recrutements attendus. Mais ça ne voulait pas dire en fait que le produit n'avait pas été délivré, parfois super bien délivré. Donc j'aime bien en fait, en tout cas, ce terme-là, je trouve qu'il est plus juste.
Absolument. Et puis j'ai écouté aussi ton épisode sur comment répondre aux insatisfactions des clients. Bah, nous, clairement, ce que tu viens de dire là aussi, va dans ce sens, c'est-à-dire que nous, on va tout faire pour mettre le client dans les meilleures conditions de ce qu'il a acheté. Après, c'est aussi à lui, je dirais, de faire vivre l'offre pour laquelle il a souscrite, quoi.
Complètement, complètement. Du coup, c'est quoi les étapes alors ?
Alors, concrètement, ce que je vais faire avant de te décrire les étapes, parce qu'en fait, comme c'est un parcours différencié, je vais te redonner du contexte. En octobre 2022, on a lancé une nouvelle offre commerciale chez Welcome to the Jungle. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'il y a quatre types de plans. Mais pour faire simple, il y a deux types de plans, les moins chers, starter et pro, sur lesquels le client va avoir moins d'accompagnement humain. Et d'autres, pro plus et master, où là, il va avoir une plus grande personnalisation et plus d'accompagnement humain personnalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... on sait pourquoi. Enfin, surtout, ce que je veux te dire par là, comme on parle d'account management, de post-closing, en fait, en tant qu'account manager, je pense qu'on ne se rend pas compte de la valeur ajoutée que peut avoir un account manager tout au long de la vie d'un client. Et ces conseils-là sont tellement précieux qu'ils doivent être monétisés.
Yes.
Et c'est vraiment la base de cette nouvelle offre commerciale qui est de dire, bah, si tu veux un accompagnement qui est hyper qualitatif, ce qu'on fait déjà, en fait, il va falloir opter et mettre le prix.
Yes. En fait, du coup, vous avez une vente libre-service et une offre enterprise où là, du coup, il y a quelqu'un qui t'accompagne et qui fait en sorte d'aller chercher les résultats promis avec toi, globalement.
En tout cas, dans la mise en place de la vitrine Welcome to the Jungle à notre échelle, il y a... En fait, moi, je gère une équipe qui s'appelle Customer Delivery, mais qui a deux têtes. Une première tête, Customer Delivery spécialiste, où là, ça va être de la gestion de clients, je dirais plus, en one-to-many, avec l'utilisation de Zendesk, tu sais, qui est un outil de customer care, hein, souvent, c'est-à-dire une boîte mail unique pour tous les clients. Et après, il n'y a pas forcément de prénom, d'adresse email, nom, point, prénom ou de numéro de téléphone. C'est vraiment une gestion volumique. Où là, on va donner accès aux clients à du matériel très scalable, type de la documentation écrite, de la documentation vidéo pour pouvoir le guider dans la préparation de son tournage photo et vidéo, la mise à disposition d'un formulaire pour remplir ses textes. Donc, nous, on lui met à disposition le maximum de ressources, mais scalable, encore une fois. Hein. On n'est pas en visio, il n'y a pas une personne, ce n'est pas du one-to-one. C'est vraiment une plateforme sur laquelle le client se retrouve, où il a tout le matériel nécessaire. Et c'est à lui, en autonomie, et j'insiste bien sur ce mot autonomie, d'aller prendre les informations, de se les approprier, et après de réaliser sa vitrine. Et ça va être uniquement des échanges par écrit.
OK.
Et l'autre tête dans mon équipe, ça s'appelle les Customer Delivery Executives. Et là, pour le coup, c'est des clients qui ont opté pour un abonnement plus cher, qui comprend un accompagnement humain, où là, on va demander au client quels sont ses enjeux marque employeur, on va aller creuser avec lui les messages qu'il a vraiment envie de faire passer ou le type de profil qu'il souhaite recruter, les raisons pour lesquelles il est venu sur Welcome to the Jungle. Et nous, on va lui apporter notre expertise marque employeur pour que ces messages se reflètent sur sa vitrine et qu'on soit sûr de ça et qu'on l'accompagne jusqu'au bout pour être sûr qu'on répond bien à son besoin.
Ok, très très clair pour moi. Je sais qu'on en a déjà parlé en fait en off avant cet événement, avant l'épisode, donc c'est pour ça que j'ai envie de l'aborder là maintenant. C'est que avant ça, il y a la vente. C'est très clair toi à ton niveau, mais est-ce que aujourd'hui c'est fluide maintenant qu'il y a quand même du temps qui est passé et que c'est extrêmement clair pour tous les clients qui n'ont pas forcément payé le prix pour avoir un accompagnement humain, qu'ils n'auront rien et qu'ils auront quelque chose en fait en one to many. Est-ce que c'est clair? Comment vous faites pour que les sales ce soit extrêmement clair? Et quand c'est pas très clair et que vous voyez qu'un client revient, j'imagine que ça a été le cas, en mode j'aimerais plus d'aide, oui mais vous n'avez pas payé ça, comment vous le gérez?
Ah mais là Laetitia, tu mets le doigt je dirais sur les grosses discussions qu'on a eues avec les équipes à compte exécutif, parce que comme je te disais, c'est une nouveauté cette différenciation d'accompagnement depuis octobre 2022. Et comment te dire que les à compte exécutifs étaient un peu frileux d'annoncer entre guillemets à un client? Alors bien sûr, ils présentent toutes les offres au moment de leur phase de démonstration. Mais lorsqu'un client s'est positionné vers une offre starter ou pro, qui est très bien, mais en tout cas où le client fait délibérément le choix d'un prix versus un accompagnement, je t'avoue que les accounts exécutifs étaient un peu frileux à l'idée de le dire. Bah, en fait, là, une fois que vous avez signé le contrat, il n'y aura plus personne qui va vous parler, entre guillemets.
Oui, bah, en fait, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que c'est la problématique. Tout le monde veut faire de la vente libre-service aujourd'hui. Parce que tout le monde se dit
c'est plus scalable,
etc. Après, on verra, les années nous le diront, si c'est les bons modèles, parce que pour l'instant, on est au début, c'est cool, on génère de l'argent, mais après, ce serait bien de voir sur 3, 4 ans, 5 ans, si la rétention du coup des clients, elle est présente, tu vois. Mais,
l'accompagnement est le facteur numéro 1 d'upsell aussi, pourquoi pas.
Exactement. Ah oui, ça peut être complètement. Et ça serait vraiment intéressant de regarder ça. Mais par exemple, moi, je sais qu'en tant que sales, je sais que je me suis retrouvée dans cette position-là à l'époque de ma boîte. On avait essayé d'avoir une offre un peu moins, plus bas de gamme. Et je sais qu'à chaque fois, au dernier truc, naturellement, et pourtant, franchement, c'était moi qui étais la head of sales, je disais, écoutez, en fait, vous n'aurez pas d'accompagnement, mais vous inquiétez pas, si vous avez un problème, au cas où…
Ouais, mais c'est ce qui vient après ce mec qui n'est pas clair, en fait. Exactement. Pour le client, non. C'est tout. Alors que pour la compte exécutive, le mais, c'est oui, ça a la marge, c'est 5% des cas. Mais en vrai, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'était vraiment le sujet principal, parce que qu'est-ce qui se passait sur les plans starter et pro, les plus petits plans sans accompagnement dédié? Ce qui se passe, c'est que le client, il a été entre les mains d'un SDR qu'il a appelé, rappelé, à booker à réserver un créneau de démonstration avec un compte exécutif. La compte exécutif qui a pris un temps avec lui pour lui faire la démo, qu'il a relancé une fois, deux fois, trois fois, X fois, qui était très proche de lui. Finalement, on arrive au closing et c'est assez contre-intuitif de se dire que maintenant que je suis client, vous êtes moins proche de moi, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça a été difficile, je dirais, d'assumer de la part… c'est une conduite du changement à mener. Hein. En fait, les travers qu'il y avait, c'est que donc les clients signent un abonnement starter et pro. Ensuite, ils se retrouvent entre les mains de notre équipe Customer Delivery, plus précisément Customer Delivery spécialiste, ceux qui gèrent du one-to-many, qui connaissent aussi bien l'offre commerciale et prendront autant de soins à répondre. Mais c'est vrai que pour nous contacter, c'est une adresse email générique. dont n'ont pas forcément l'habitude les clients. Delivery@wttj.co. Quand on reçoit les emails dans Zendesk, donc cette boîte mail commune, on y répond avec le maximum de soin, la personnalisation. Il y a bien un humain derrière, hein. On n'utilise pas des templates, ou en tout cas pas que des templates, on personnalise, on aide vraiment notre client, mais c'est juste que c'est un mode qui est dans un mode de communication à l'écrit. Et en fait, le client, il ne va pas connaître l'adresse mail, il ne va pas être habitué à ce mode de communication uniquement à l'écrit, alors que ce n'est pas ce qu'il avait. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le seul numéro qu'il avait, c'est-à-dire son account exécutif. Sauf que l'account exécutif, il revient vers nous, du style, Darina, est-ce que vous avez bien pris contact avec le client? Vous ne faites pas votre travail? Ou qu'est-ce que je dois lui dire? Parce que moi, en fait, le client, il n'est plus chez moi. Et il a raison. Le client n'est plus chez lui. Et en fait, c'est encore une fois une conduite du changement. Donc, on a fait 2, 3, X points ensemble avec les accounts exécutifs. Ça a été un peu difficile d'avaler la pilule de l'autonomie. Mais en fait, maintenant, ça devient… En fait, si tu changes de paradigme en tant qu'AE et que tu te dis « c'est pas une offre bas de gamme où tu vas perdre quelque chose, mais plutôt un moyen de valoriser les autres offres sur lesquelles où tu te dis écoutez, quel est votre niveau de maturité marque employeur ?» Parce qu'il faut revenir à la proposition de valeur quand c'est dans ce cas-là. Quel est votre niveau de maturité marque employeur ? Est-ce que vous savez déjà quels sont les messages que vous voulez mettre en avant sur l'entreprise ABCD ? Si oui, écoutez, absolument possible pour vous d'opter pour une offre starter ou pro où là, vous serez plus autonome puisque vous savez déjà ce que vous voulez. Inversement, si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement sur ce sujet qui n'est pas simple, on a les ressources dédiées et l'expertise en interne. Donc, c'est plus un moyen, en fait, je dirais, d'essayer de mener client sur sa réflexion de « Ok, welcome to the jungle, ça a une bonne notoriété, c'est un peu… tu as envie d'être là parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui y sont et tout, trop chouette, on est ravis. Mais demain, comment est-ce que tu vas te débrouiller ?» Et c'est, je pense, là, la source de la discussion.
En fait, tu as été obligé de travailler quand même sur le discours commercial, en fait, des AE pour en fait que ce modèle-là puisse marcher. En disant, voilà, en fait, c'est pas juste une histoire de on split les équipes parce qu'au final, tout le monde pouvait savoir faire un peu de tout, etc. C'est juste, effectivement, on split les équipes, chacun a son périmètre, mais en plus de ça, on retravaille sur le discours commercial pour que ce soit plus clair et que du coup, demain, un client qui prend l'offre starter, il se lance. Voilà, exactement. Il se lance, c'est naturel, il se dit, en fait, voilà, moi, je sais ce que j'ai à faire, je sais exactement les contenus que j'ai à mettre. J'ai pas besoin d'une personne, et au contraire, versus celui qui se dit non, moi je veux des vrais conseils, je veux qu'on puisse me donner les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas.
Tout à fait.
Il est capable, en fait, du coup, finalement, d'avoir plus de puissance aussi également dans la capacité à vendre sur des paniers plus hauts. Donc, finalement, c'est le fait d'avoir splitté, c'est une opportunité pour avoir plus de satisfaction, mais aussi également une opportunité pour faire plus d'argent, en fait, aussi, finalement.
Enfin, et tu sais, il y a des clients qui ont envie d'être autonomes, en fait.
Ouais.
Qui ont envie d'autonomie. Et pour te dire, au tout début, quand il y avait ces petites frictions au démarrage, en fait, on a appelé un client qui était en autonomie, mais qui ne nous répondait pas. Et en fait, on lui a dit, « Allô, monsieur, vous inquiétez pas. Enfin, on a bien votre dossier en main. On vous a envoyé le lien de la plateforme sur laquelle vous pouvez avancer vous-même. Juste pour info, n'attendez pas. Enfin, nous, on attend que vous avanciez parce que vous êtes en autonomie. » Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, d'accord, j'avais pas compris que j'étais en autonomie, mais pas de problème. Je vais me débrouiller, c'est bon, j'ai compris la plateforme, c'est ça, ça, ça. Et là, on se dit, waouh, en fait, chacun attendait. Du coup, on aurait pu attendre longtemps comme ça, mais c'était intéressant de creuser et de se dire, ok, où est-ce qu'on pourrait mieux faire passer le message? Et franchement, là, je dirais les 3 premiers mois, ça a été le temps de se mettre en route. Et là, maintenant, c'est très clair. Comme je te dis, les accounts exécutifs, ils sont on ne peut plus cristal clear. Et ils le voient vraiment comme une opportunité d'upsell si besoin. Et comme ça, le client, s'il choisit de prendre des plans sans accompagnement, c'est vraiment de manière délibérée. Et il sait exactement comment est-ce qu'il va avancer par la suite.
Trop bien. Du coup, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps quand même sur l'entreprise et après, on parlera du management. Mais du coup, ton offre sur l'entreprise, forcément, quand tu as t'as un service quand même qui est dédié, ça doit quand même être un accompagnement aux petits oignons.
Absolument.
Du coup, j'imagine que c'est complètement différent de ce que vous pouviez avoir avant. Si tu peux donner quelques exemples peut-être de choses en fait qui où là en fait voilà, ça justifie le prix et oui. Et en fait aussi j'imagine que tu es toujours à la recherche d'optimiser cet accompagnement là pour justifier que ce non-choix de l'autonomie était un bon choix quoi.
Absolument. Après, c'est vrai que je dirais qu'en termes de taille d'entreprise, tu sais, il y a un peu un découpage naturel où les plus petites entreprises vont naturellement se positionner vers les offres les moins chères et les plus grosses vers les offres les plus complètes. Alors, nous, on ne réfléchit pas en termes de taille d'entreprise. On est vraiment sur les plans, les abonnements qui ont été choisis, mais en tout cas sur les plans Pro Plus et Master, qui sont les plans, en effet, les plus complets. Ah bah là, je peux te dire que c'est des machines de guerre. On se doit de répondre à la promesse qu'on a faite d'expertise marque employeur. Donc, ça va se matérialiser par quoi ? La compte exécutive va faire carrément une passation directement dans le mail au Customer Delivery Executive. Le Customer Delivery Executive rebondit de manière personnalisée, propose un calendrier et ensuite, lors de cette... et même en préparation de cet échange, le Customer Delivery Executive va demander au client quels sont vos enjeux. Bien sûr, il se nourrit des notes qui ont été prises dans le CRM pour ne pas poser 15 fois la question au client, mais au moins, ça permet comme ça d'anticiper un peu les conseils qu'on va pouvoir prodiguer au client, d'aller rechercher en amont des exemples de vitrines qui vont être pertinentes, des exemples d'initiatives marque employeur qui ont déjà été mises en place par d'autres. Comme ça, le jour J, lors d'un appel qui dure entre 30 et 45 minutes, la phase de découverte, elle va durer à peu près la moitié du temps pour bien verrouiller et valider les besoins du client en termes de communication marque employeur. Est-ce que ça va être sur la culture, les valeurs, les initiatives RSE, est-ce que ça va être sur les avantages des salariés, les opportunités de mobilité en interne, la vie à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que ça va être sur la politique de télétravail, tu vois, toutes ces initiatives. Et une fois qu'on les a bien en tête, nous, en fait, notre expertise va faire qu'on va traduire des enjeux, des demandes de la part des clients en produits.
Yes.
Donc, ça veut dire que tu veux mettre en avant ta politique, j'en sais rien moi, de pet friendly. Eh bien, comment ça va se traduire dans tes photos ? Comment ça va ? Oui. Tu veux mettre en avant tes initiatives en matière de diversité et inclusion ? Comment ça va se traduire dans les interviews ? Quelles sont les questions qui seront les plus pertinentes ?
Ouais.
Quels sont les éléments de texte ? Quels sont les mots de vocabulaire qui vont être les plus pertinents pour que les candidats, dès qu'ils arrivent sur ta vitrine, ils savent que toi, les points forts de ton entreprise, ton ADN, ils ressemblent à ça, ça et ça.
Ok, c'est très clair. Moi, j'aimerais juste revenir un peu en arrière parce que je sais que c'est un problème, en tout cas, pour moi, mais aussi également, alors pas pour moi parce que j'étais de l'autre côté, du côté des sales, mais en tout cas pour la personne qui avait ce rôle, qui était plutôt, on appelle ça COO ou directrice des opérations. Et je sais que c'est un problème pour d'autres boîtes, c'est cette passation. Est-ce que c'est toi qui as structuré pour les sales, de dire voilà moi exactement ce que j'ai envie d'avoir dans le CRM, ce dont j'ai besoin pour mon équipe ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, justement, c'est quand tu fais cette première prise de contact, souvent, parfois, on peut perdre en fait un peu la relation où les gens en fait vont pas rebondir tout de suite. Est-ce que tu as un plan de relance que tu mets en place pour tes équipes pour justement, en fait, parfois, ils vont pas servir du calendrier ou tu vas devoir courir après. Comment tu fais pour réduire ce temps ? C'est les deux problèmes que je peux voir en fait généralement, régulièrement dans les passations.
Absolument. Alors, je dirais que en termes d'outils, pour répondre à ta première question, il y a un premier challenge qui émerge puisque on travaille avec deux outils différents. Les équipes business, que ce soit les account executives, les SDR ou les account managers, travaillent avec Pipedrive, qui est un CRM. Mmh. Les équipes customer delivery, nous sommes sur de la gestion de projet. Du coup, nous avons un outil qui s'appelle Monday, qui est fait pour de la gestion de projet. Tu sais, où tu as des cases, en fait, de ça c'est done, du coup, tu passes à celle-là, ça c'est done, ça, etc. Mmh. Donc, en fait, on a un peu deux paradigmes différents. Et moi, qui ai connu Pipedrive et qui suis très à l'aise avec les CRM, j'adore ça, je me suis dit, waouh ! En fait, là, je comprends la logique de gestion de projet, mais en fait, fois le volume de clients qu'on gère, pour moi, ça doit être aussi un CRM.
Ouais,
donc, Mais en même temps, je n'ai pas demandé à mes équipes qui sont déjà bien chargées de jongler avec deux outils qui n'ont pas la même fonction.
Ouais, exactement.
Donc, on a fait pas mal de bricolage, on a fait pas mal d'automatisation avec du Zapier, avec du Make. Bon, c'est l'équipe IT est pas mal sollicitée chez nous pour que nous, on travaille uniquement sur Monday, mais qu'au moment où il y a le closing d'un contrat, en fait, les accounts exécutifs doivent remplir une trame de passation sur Pipedrive, et cette trame est ensuite importée automatiquement dans Monday. Donc, et pour répondre à ta question, oui, c'est moi qui ai mis en place les bullet points pour savoir quelles sont les informations dont nous avons vraiment besoin pour pouvoir contacter le client et pas arriver comme un cheveu sur la soupe, sachant que le client, il a déjà parlé au SDR, à l'AE, et nous, on va pas. Enfin, il faut quand même que le client se sente qu'on est pro et qu'on a déjà travaillé en amont.
En tout cas, ce qui est génial, c'est que c'est pas beaucoup de boîtes qui le font, c'est que tu as eu ce souci-là de dire en fait que ton équipe doit être sur un outil qui est un adapté à eux, et deuxièmement, qu'ils soient concentrés sur un outil. Parce que la problématique, je pense que tu as raison, c'est quelqu'un qui s'occupe du customer delivery, je pense qu'il n'a rien à faire sur Pipedrive. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et que du coup, en fait, c'est bien que tu aies pu, lier les deux et de faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur un outil où ils ont l'information bien structurée et sur un outil qu'ils maîtrisent, quoi. Et du coup, genre, sur la deuxième question, ce que je disais, c'est est-ce que tu as des problèmes de relance ou en fait, non, finalement, vos mails sont suivis tellement bien que, que vous n'avez pas de problème, en fait. En
tout Alors, cas, tu parles d'un monde imaginaire ou tu parles de la réalité?
Dans ce cas, j'essaie de parler un peu de la réalité, tu vois. Bon,
alors, mais on ne va pas se le cacher. En fait, c'est assez contre-intuitif en réalité parce que on pourrait dire, bah attends, le client, il a signé, il est super content, il doit être hyper pressé, en fait, de réaliser sa vitrine. Surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est très, très concret, très visuel. C'est une expérience aussi à faire mener avec tous ses collaborateurs, cette expérience de tournage et tout. Et malgré tout, bah, on se retrouve confronté, en effet, au closing, déjà à cette première étape. Et c'est un peu difficile pour nous parce que bah, le client, il vient juste de signer. Nous, on est, comment te dire, au taquet puissance 1000. On le contacte contractuellement, c'est dans les 5 jours ouvrés, mais on essaye vraiment de le contacter ASAP pour garder cet engagement. Et quand le client ne nous répond pas ou tarde, bah, c'est vrai qu'on creuse. Alors, est-ce que pour les clients qui n'ont pas d'accompagnement dédié, est-ce que le problème vient du fait que l'adresse générique peut aussi des fois tomber dans les spams? Du coup, l'AE, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les AE, ils sont super. On a vraiment essayé de tout cadrer, que eux disent déjà à leurs clients, regardez bien dans vos spams si jamais, tatata. Donc, on essaye vraiment d'anticiper. Après, ça peut être le client n'est pas prêt à faire son tournage. Ok, mais du coup, peut-être qu'avant ça, on peut travailler sur le texte. Enfin, voilà, on peut toujours essayer de se retourner. Mais ce qui est important, c'est de garder le lien. Ou en tout cas, créer un lien, comme tu disais. Parce que nous, on arrive en termes de nouvel interlocuteur. Et c'est vrai que c'est challengeant. Du coup, pour ne pas perdre nos clients, on a mis un système de relance en place. Alors, encore une fois, tout ce que je vais te dire est très théorique. Parce qu'en ce moment, on a tellement de charges qu'on attend d'être plus staffé. Et c'est en cours pour pouvoir vraiment le mettre en place. Et moi, ça fait partie de mes KPI d'avoir zéro ghosting et que tous les projets avancent. Parce qu'on a un KPI qui est le time to onboard, TTO. Donc, le temps entre le closing et la sortie de la vitrine sur Welcome to the Jungle. On veut le réduire au maximum. Donc, pour assurer la bonne conduite de projet, nous, ce qu'on se dit maintenant, c'est qu'à M plus 1, c'est-à-dire maximum un mois après la signature du client, si on parle là des clients qui ont un accompagnement personnalisé, si le client ne nous a pas réservé de date dans le calendrier, on va demander de l'aide à l'AE, qui lui connaît déjà le client, pour qu'on soit deux un peu à mettre la pression au client de « Allez, on a trop envie de travailler ensemble et de commencer ton projet. »
Trop bien. Trop bien.
Et alors, ce que je peux te dire aussi, excuse-moi, et ça, c'est important, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces timings-là, c'est que aujourd'hui dans tous nos contrats sur Welcome to the Jungle, à M plus 3, il y a un hard stop, il y a une grosse deadline. 3 mois après la signature de ton contrat maximum, tu commences à être facturé.
Ah, ok. D'accord.
Donc, nous, ce time to onboard, il ne sort pas d'un chapeau, tu vois.
Ok, donc ça change. Alors du coup, on a parlé en fait de ce truc de d'accompagnement aux petits oignons, genre juste, parce que tu ne vas pas faire tout l'accompagnement, mais tu disais, voilà, notre objectif, c'est de trouver le meilleur produit pour eux. Combien de points de contact t'estimes? Tu as mis en place genre, un nombre de points de contact qu'il faut absolument pour vérifier, en fait, effectivement, que les produits sont bien mis en place, etc. Enfin, est-ce que, autre question aussi, si tu peux y répondre, mais est-ce que du coup, bah, en fonction, tu peux parler de staffing, est-ce qu'il y a une limite du nombre de gens justement que tu peux gérer en tant que customer delivery pour justement respecter ces points de contact? Tout ça, c'est en construction ou c'est déjà quelque chose que tu as déjà mis en place ou processé?
C'est complètement en construction. Je vais d'abord répondre à ça parce que c'est bah, vraiment, comme je te dis, le pôle, il a été créé en septembre 2022. Moi, je suis arrivée en novembre, le temps de finir mes missions d'account manager et tout. Donc, en fait, on marche vraiment sur des œufs. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, une personne peut gérer pas plus de X. Ce qui est sûr, c'est que on commence à dessiner des tendances, tu vois, pour les customer delivery spécialistes qui sont en one to many. Il n'y a pas de temps dédié avec chaque client. Donc, on peut se dire que le portefeuille, il va osciller entre 130, 150 clients par tête versus un customer delivery exécutif. Bon, bah là, on serait plus autour de 80-100. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le staffing actuel, bah, on a pas mal de charges. Donc là, c'est tout l'enjeu. On est en train de recruter d'ailleurs dans mon équipe. Mais là, ce que je suis en train de te dire, demain, avec l'équipe produit qui va améliorer l'expérience du client, bah, peut-être qu'on pourra en gérer encore plus.
OK.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment la grosse question, ouais.
Ok, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'aujourd'hui, tu as aussi un rôle énormément. Tu as ton travail avec les accounts exécutifs, les account managers, mais tu as aussi ton travail avec l'équipe produit pour justement améliorer en fait, le produit de telle sorte en fait, que toi, tu gagnes du temps et que j'imagine que tes interactions les plus importantes, c'est là où il y a énormément de valeur, que ce soit une Darina ou un autre customer delivery qui parle au client.
C'est ça. Et même, comme tu dis, l'humain doit être valorisé. Donc, ça veut dire que… Et là, ça reprend aussi ta question sur les touch points. Si demain, les seuls touch points qu'on va avoir… En fait, demain, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait moins de touch points, mais des touch points vraiment avec de la valeur. C'est-à-dire que pour moi, un touch point où le client te dit « Oui, par rapport à la photo numéro 15, est-ce qu'on peut la rogner sur la droite ?» Et ça te fait un aller-retour. En fait, pour moi, ça, demain, je ne veux plus que ça existe. Je veux qu'il puisse le faire directement dans le produit, dans l'outil. Ouais. Ah tiens, il y a une coquille, j'ai oublié de mettre un E ou j'ai oublié de mettre un R, tu peux le corriger. Mais ça, demain, mais autonomie totale sur cet item-là, tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, ce n'est pas un touch point, en fait. Okay. C'est ça qui est difficile à jauger aujourd'hui.
Ah mais du coup, en fait, j'imagine que tu fais des réunions très régulièrement avec le produit pour intégrer des éléments dans la roadmap. Du coup, t'as...
Oui, ouais, okay. Ouais, complètement. Alors, encore une fois, je ne suis pas toute seule. Hein. Je travaille de main dans la main avec un operation manager qui est plus, lui, le porte-parole de notre équipe. Et puis, au même niveau que moi, j'ai l'équipe production delivery. Puisque, tu vois, Sylvain, qui est au même niveau que moi, il est en charge de toute la partie photo, vidéo, enfin, toute la partie tournage, qui est partie intégrante de la vitrine. Donc, on travaille vraiment tous les trois sur la même longueur d'onde. Et bien sûr, on fait porter nos messages auprès du produit. Après, je dirais, c'est des roadmaps à aligner, en fait.
Ah oui, bien sûr, ouais. Trop bien. Eh bien, écoute, en tout cas, on a déjà pas mal de choses. J'aimerais qu'on finisse rapidement sur le management, parce que du coup, comme tu l'as dit, tu recrutes. Tu vas recruter, plus en fait vous avez de clients et en tout cas de clients qui prennent notamment cette partie je dirais accompagnement humain mais aussi également les starters parce que tu es en train de créer une machine en fait automatisée pour pour ces clients là donc du coup tu manages aujourd'hui comment déjà ça se passe et comment tu fais en sorte parce que quand on t'entend parler, c'est extrêmement. On sent que tu es extrêmement clair sur comment un client est satisfait. Tu as été aussi également de l'autre côté à vendre un produit, à vendre une promesse, etc. Donc, c'est extrêmement clair. Mais par contre, imaginons que tu prends quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas Welcome to Jungle. Comment tu fais pour qu'il ait le même niveau d'exigence que toi et cette même compréhension, c'est quoi? Parce que ce n'est pas la même chose d'une boîte à une autre. C'est quoi un client satisfait chez Welcome to Jungle?
Franchement, j'ai adoré ton épisode sur comment répondre aux insatisfactions des clients et je m'en inspire. Aujourd'hui, la méthode, moi, que j'enseigne, entre grosses guillemets, encore une fois, en toute humilité, aux personnes qui rejoignent mon équipe, c'est déjà, on a une charte Welcome to the Jungle qui est très stricte, comme tu le vois, en termes visuels. Ouais. On a donc déjà une charte qu'il faut respecter à tout prix parce qu'on veut proposer aux candidats la meilleure expérience possible sur notre site. Déjà, ça, c'est, on part vraiment du why, tu vois, de notre promesse. Et nous, on est un élément de cette grosse machine et on se doit de faire bien notre boulot. On est attendu là-dessus. Comment ça va se décliner ? Il faut qu'on respecte des process qui ont été mis en place et qui sont, pour être honnête, assez lourds et assez nombreux dans notre équipe pour assurer justement une certaine standardisation, une certaine scalabilité. Donc moi, je dois enseigner l'offre commerciale, les process, les outils aux collaborateurs qui rejoignent mon équipe. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi bien cadrer slash recadrer les clients. Et pour se prémunir des insatisfactions, mais de rester très clair, pour moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, de ne pas laisser le doute et d'être transparent avec le client, c'est une méthode de répondre aux objections. Quand tu dois, déjà, moi, je recrute sur est-ce que je pense que cette personne est capable d'être ferme et de dire non à un client. Ça peut être un peu négatif, je suis désolée, comme critère de recrutement, mais en fait, pour moi, c'est hyper important de savoir tenir la posture. Que tu sois stagiaire, CDD, alternant, CDI, je m'en moque. Une fois que tu es recruté, tu représentes Welcome to the Jungle auprès d'un client qui nous fait confiance. Donc, tu dois être digne. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas possible, en fait, il ne suffit pas de dire oui à tout, de faire des gestes commerciaux. Quand un client demande quelque chose qui n'est pas possible, il faut lui dire non. Donc, ça, ma méthode, c'est reposer le contexte, expliquer pourquoi ce n'est pas possible de faire ce que veut le client. Et surtout, ensuite, terminer par proposer une ou plusieurs solutions. Je te prends un exemple. Pendant un tournage, le client dit « Ah bah tiens, ça tombe super bien que vous fassiez venir un photographe chez moi parce que justement, je voulais en profiter pour reprendre les portraits LinkedIn de mes collaborateurs, de leur faire des photos. » Alors, pour rappel, nous, Welcome to the Jungle, on est là pour faire rayonner la marque employeur de l'entreprise et de montrer les coulisses de l'entreprise aux candidats. Donc là, ce ne sera pas du tout possible de faire des photos portraits LinkedIn de vos collaborateurs parce que bah, tout simplement, un portrait d'une personne, ça ne va pas du tout parler au candidat, ça n'a pas de valeur ajoutée, ça ne communique pas vraiment de message. Donc, on va privilégier telle mise en scène de photos. Et d'ailleurs, pour autant, tous nos opérateurs qu'on fait venir chez vous, ce sont des opérateurs en freelance, ce qui signifie que là, on reste la prestation Welcome to the Jungle, elle est ce qu'elle est. Par ailleurs, si vous voulez que je vous donne les coordonnées en amont de la personne qui va se rendre chez vous, si vous voulez négocier avec lui une prestation spécifique portrait, photo, LinkedIn, c'est vous complètement possible pour vous.
Trop cool. Mais en fait, je pense que tu as raison. En fait. Et moi, en fait, j'aime. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. On ne le dit pas assez. J'ai pu faire l'erreur aussi, pareil, avec des personnes qui étaient customers, c'était Delivery à l'époque. Mais en fait, c'est vraiment un job de sales et je dirais même, enfin, de vraiment pure sales parce que le côté de pas savoir dire non, enfin, de pas savoir dire non, c'est un vrai problème quand tu fais de la vente parce que beaucoup de problèmes d'insatisfaction viennent de là, viennent parfois de la vente et pas du tout de Delivery. L'accompagnement peut être parfait, mais si tu as vendu une promesse trop impossible, c'est un problème. Et aussi également sur le fait de savoir donner des solutions. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, notamment dans un contexte où il y a de plus en plus de concurrence, oui, effectivement, il y a la brand, et vous n'avez aucun problème là-dessus, mais il y a aussi la capacité à pouvoir proposer des solutions, à dire, OK, bah, typiquement, vous aimeriez faire ça. Aujourd'hui, bah, pour une raison ou une autre, la roadmap, on ne peut pas délivrer ce que vous avez envie, ça sera peut-être dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Mais en attendant, bah, toi, dans ton équipe d'Arena, tu as des gens qui sont capables de dire, je te fais patienter pendant les 3-4 mois, voire même, en fait, je vais t'émerveiller parce que ma solution que je vais te proposer, tu n'avais pas cette proposition en tête et finalement, ça répond beaucoup mieux à ton besoin. Pour moi, c'est une skill qu'un sales doit avoir, quoi. Donc, du coup, les profils que tu as, parce que tu disais, ouais, je leur parle de l'offre commerciale, je leur parle des objections. En fait, c'est un sales, en fait, tu vois. C'est juste que le mec, en fait, doit se dire, en fait, je vais même aller même parfois peut-être aller plus loin. Là, je pense qu'aujourd'hui, vous avez énormément beaucoup de choses à faire. Mais on va dire que quand tu as le temps de le faire, c'est même aller plus loin, de dire, voilà, on a remarqué que les gens qui avaient des résultats comme ça, et si vous voulez avoir ces résultats-là, voilà en fait ce que vous devriez faire. Et là, du coup, même tu participes à faire plus de chiffres parce que tu peux aller refiler le bébé après à l'account management, quoi.
Et on se fait clairement aider par les spécialistes du sujet. Tu vois, moi, je m'entoure de personnes de l'équipe produit, de l'équipe data. Tiens, quelles sont les pages les plus vues? Pourquoi? Et même nous, entre nous dans l'équipe, on veut se donner des moments d'échange. Tu vois, moi, dans mes prochaines réunions d'équipe, là, je vais donner sur 1 heure, 10 minutes à une personne de mon équipe qui tourne à chaque fois, de présenter une ou plusieurs vitrines qu'il a mis en ligne et de dire, bah tiens, si je fais le focus sur la vitrine de telle entreprise, on voit qu'il a mis en place telle initiative et ça, je ne l'avais encore jamais vu. Est-ce que vous la connaissez? Non, bon, bah voilà, la prochaine fois, vous pourrez peut-être en parler à vos clients. Et en fait, l'idée, c'est de tous monter en compétences parce qu'on ne gérera jamais les vitrines de tout le monde. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner lieu au partage d'informations, monter tous en compétences. Et comme tu le disais aussi par rapport aux hard skills tout à l'heure, nous, chez Welcome to the Jungle, on encourage aussi la mobilité interne. Donc, si une personne de chez moi veut passer du côté purement commercial, que ce soit en amont chez les AE ou en aval chez les AM, c'est complètement possible.
Ok, trop bien. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais te poser une question. Pour toutes les boîtes qui souhaitent mettre en place, en fait, justement, un pôle Customer Delivery, ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais en premier lieu?
C'est de bien discuter sur l'offre commerciale, ce qu'elle implique côté Customer Delivery, de bien avoir des communications régulières et franches avec les accounts exécutifs en amont, les account managers en aval et être très clair du périmètre des uns et des autres. On n'est pas là pour faire des gestes commerciaux, on est là pour délivrer une promesse, un produit et s'y tenir. Et en fait, quand le client il arrive entre les mains des account managers dans notre cas, en fait, tout doit être hyper clair sur ce qu'il a aujourd'hui, comment est-ce qu'il va avancer avec nous demain pour qu'il soit le plus satisfait possible. Et d'ailleurs, même en ouverture, ce que je peux te dire, c'est qu'on est en train, chez Welcome to the Jungle, de mener une réflexion sur un pôle Customer Experience sur lequel il y aurait, après, l'équipe Customer Delivery, un réel pôle Customer Success et Care.
Ah yes, ok, très cool. Eh bien, écoute, merci énormément pour ce que tu as partagé. En fait, c'était très actionnable, donc j'adore. Merci en tout cas pour tout ça. Merci pour ce partage et je te souhaite plein de réussite avec ton challenge, parce que j'imagine que c'est un gros challenge.
Oui.
Et de recruter du coup les meilleurs profils pour tout éclater. Voilà.
Merci, ciao Darina. Ciao.
À bientôt. C'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore Darina pour cet échange et tes super conseils. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn. Je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et avant de partir, partage cet épisode avec une personne de ton entourage qui serait intéressée par le sujet. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la newsletter Vendu. Tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour te partager mes meilleures stratégies. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.